Vous savez qu'on est dans l'évangile de Matthieu, hein? Et le chapitre 4 nous a fait réfléchir cette semaine de savoir quel était notre objectif, si notre objectif était d'être disciple. Hein? Et un disciple, c'est quelqu'un qui fait des disciples. Et Jésus va poursuivre au chapitre 5 en parlant de son royaume, et il va continuer à le faire dans les chapitres 6 et 7 aussi. Et justement que l'attitude de vie, de cœur qu'il faut avoir en qualité de disciple. Et le roi va nous montrer tout simplement comment on vit dans son royaume. Jésus va montrer comment on vit dans le royaume des cieux. Et Jésus ne va pas dire comment il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux en suivant des règles, etc. Ça, il l'a montré précédemment. Son premier message, c'était la repentance, c'est par la repentance et en le choisissant pour roi de nos vies que l'on rentre dans le royaume des cieux. Non, là, ce texte nous parle de comment on vit dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas une version améliorée de la loi, comme dans le Décalogue, par exemple, hein, mais Jésus va nous montrer les principes, comment se vit le royaume des cieux. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle du royaume des cieux, on pense souvent à quelque chose qui sera lointain, peut-être même dans l'éternité. Alors que le texte de ce matin nous montre que c'est pour maintenant. Il parle au présent. Le royaume des cieux, c'est ce qui se vit, hein, c'est ce qui se vit maintenant dans la vie des disciples. Alors on va le lire une première fois, puis on le relira une deuxième fois. Hein, comme ça, ça nous permet de bien l'assimiler. Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 16. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il prit la parole pour les enseigner, il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera et que l'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Il y a deux répétitions constantes dans ce texte. J'imagine que vous les avez repérées. « Heureux » et « car ». À chaque fois, c'est fait « heureux », tac, 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 « car », tac, tac, tac. « Heureux », tac, 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 « car », tac, tac, tac. Hein? Et c'est intéressant, ce terme « heureux ». J'ai pendant presque 20 ans témoigné auprès d'un groupe de marcheurs qui s'appelait les marcheurs heureux. Hein? Et je me trompais hyper souvent et je parlais des marcheurs joyeux. Alors je me faisais vilipender à chaque fois parce que mes amis insistaient sur le fait qu'ils témoignaient dans ce groupe d'être heureux et pas joyeux comme les sept nains. Hein? Et en fait, ils avaient raison. Il y a une grande différence. Quand on est heureux, il y a une profonde satisfaction d'être là où le vrai sens de sa vie doit être. Il y a une profonde satisfaction d'être là où le vrai sens de sa vie doit être. L'antonyme de damné, c'est heureux. L'inverse de damné, c'est heureux. Et en cela, heureux, on peut être heureux même si les circonstances ne sont pas réjouissantes. D'ailleurs, le texte de ce matin parle de persécution, par exemple. Hein ? Et il y a une énorme différence avec les mirages qu'on nous met sous les yeux à longueur de journée. Le bonheur par la consommation. Hein ? Et donne-toi pour avoir ceci, cela, et tu nageras dans le bonheur. Et vous avez remarqué, toutes les publicités, on présente un produit et quelqu'un qui a le sourire. On n'a jamais vendu une voiture avec quelqu'un qui fait... On ne vendra jamais. Et en fait, il y a une association qui se fait dans nos têtes, c'est que si j'achète, j'ai le sourire. Je suis heureux. Hein ? Alors, on sait que c'est une arnaque. Hein ? On sait que ce n'est pas vrai. Mais on court tous comme des lapins à acheter les choses qui vont, soi-disant, nous rendre heureux. Et il y a une dépendance à cette association, j'achète, sourire, et finalement, on se rend compte à chaque fois qu'il y a un grand vide. Le bonheur par l'idéologie. Ces 25 dernières années, on a eu beaucoup de combats qui ont été menés par des mouvements soi-disant progressistes. Et à chaque victoire, un texte de loi ou quelque chose comme ça, il y a une liesse qui apparaît et qui retombe très rapidement pour continuer vers un autre combat, pour aller plus loin. De toute façon, même si tout était obtenu, ben, il n'y aurait pas ce sentiment d'être heureux. Il y aurait la joie d'avoir gagné l'un ou l'autre combat comme une équipe gagne un match, mais pas plus. Il y a le même phénomène avec la politique, vous avez remarqué. Hein ? Avec les élections, d'ailleurs aujourd'hui il y a des élections. Hein ? Beaucoup d'espoir d'être heureux avec l'homme ou la femme providentielle, avec tel ou tel mouvement politique ou avec telle ou telle loi. Et toujours derrière la même désillusion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais juste un jour. Mais c'est intéressant parce que ce sentiment fort devrait faire réfléchir. Parce que si ça existe, un sentiment fort comme ça, comment se fait-il que c'est que pour un moment ? Hein ? Est-ce que ça ne devrait pas durer plus longtemps ? Et je pense que c'est un bon angle de discussion pour faire réfléchir entre juste un jour et être heureux pour l'éternité. Alors on court toute une vie pour amasser des biens, des souvenirs, des performances et pour ressentir derrière de la futilité ou du vide. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais je me souviens d'une phrase que on prête à Boris Becker. Alors Boris Becker, c'était un tennisman qui a été numéro 1. Hein. Je préfère le rappeler parce qu'on dira Federer dans 15 ans. Hein. Vous savez, il y avait un numéro 1, il s'appelait Federer. Quand on oublie vite. Et on aurait dit à Boris Becker, vas-y, vas-y, donne-toi, tu verras quand tu seras tout en haut. Tu verras quand tu seras tout en haut. Vas-y, vas-y. Et une fois arrivé en haut, il a dit, personne ne m'avait dit qu'il n'y avait rien. Et d'ailleurs, sa vie a été, même de sportif, a été assez chaotique parce que justement, grand vide derrière. Et il a eu même des mailles... des démêlés avec la justice, je pense, parce qu'un grand chaos entre cette grande aspiration et ce grand vide correspondant. Le texte de ce matin nous propose d'être heureux. Waouh ! Ah, je vois des sourires quand même. Hein ? Et je crois que ça mérite notre attention, ce d'autant plus qu'on a vu que la dernière fois, Jésus n'était pas un beau parleur. Mais c'était quelqu'un qui démontre ce qu'il dit avec son autorité divine. Et si vous regardez bien dans les Bibles qui sont à côté de vous, Vous verrez que le chapitre 7 est après suivi du chapitre 8. C'est une bonne Bible, s'il y a le 7 et le 8. Hein ? Et dans le chapitre 8, Jésus va montrer son autorité divine. Il va guérir l'impureté de la lèpre. À l'époque, on était banni hein, si on avait la lèpre. Il va même provoquer une guérison à distance sur un serviteur. Il va agir sur les éléments naturels. On aimerait bien, hein, en ce moment, avoir le pouvoir sur les éléments naturels. Et sur le monde occulte. Quand Jésus dit, il a la capacité derrière de montrer que c'est lui Dieu. Deuxième répétition, c'était « car ». On a vu « heureux », la deuxième répétition, c'était « car ». Et on va pouvoir voir, on va s'arrêter gentiment sur chacun des versets, qu'à chaque « heureux » est associé un « car », parce qu'il y a quelque chose qui découle de cette attitude de vie dans le royaume des cieux. Alors, on va se poser, mais avant, j'aimerais qu'on puisse chanter pour qu'on soit dans les dispositions d'étudier ce texte. Et un chant qui s'imposait, c'était « Chercher d'abord le royaume de Dieu ». Vous êtes d'accord ? Ah, merci. Alors, on va se lever. Merci parce que vous avez comblé de joie notre choriste qui rêvait de faire un canon et vous l'avez fait naturellement. Alors, je vous propose de reprendre la lecture. J'ai lu un peu globalement hein, pour qu'on puisse bien s'arrêter sur ces deux répétitions. Et je propose qu'on s'arrête sur ces versets parce que moi-même, j'étais interrogé, interpellé. Peut-être qu'on se fait des fausses idées aussi sur l'un ou l'autre de ces versets. Le début est facile. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit à ses disciples. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis prit la parole pour les enseigner. Il dit. Donc on voit que ça, il y avait les foules, il y avait aussi les disciples. Donc c'est un enseignement général. Mais dans le but d'être disciple du royaume des cieux, disciple de Jésus. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Contrairement aux religieux du temps de Jésus, qui la ramèneront toujours, Jésus pointe sur le fait que ce sont ceux qui ont saisi le fossé entre eux et Dieu qui sont dans les dispositions pour faire partie du royaume des cieux. La question que pose ce verset, c'est « Est-ce que je suis encore enseignable ?» Ou « Est-ce que je suis, monsieur et madame, je sais tout de Dieu ?» Et ça va même plus loin, regardez au verset 4. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Le contexte est spirituel. Et la tristesse, donc, qui est ici, est celle du constat du gouffre qu'il y a entre nos iniquités, nos manquements et Dieu. Et l'apôtre Paul rendra bien compte de ce sentiment. Il écrira la même chose aux Corinthiens, de Corinthiens 7, 9 à 10. Il dit « Je me réjouis maintenant non pas de ce que vous avez été attristé, mais que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Vous voyez l'enchaînement hein ? Ce sentiment, de ce bilan sur notre vie est une étape qui mène à la repentance, qui est nécessaire à la repentance et où on trouve toute la consolation auprès de qui ? Auprès de Dieu, au travers de l'action de Jésus. La question que pose ce texte, ce verset, celui d'avant aussi, suis-je dans la justification par rapport à mon péché ? Oui, mais, ou dans la victimisation face à mon péché ? Ah, c'est pas ma faute. Ou bien la banalisation ? Ah oui, tout le monde fait comme ça. Maintenant, la société est comme ça. ou bien la conscience totale de mon péché. Ou ai-je une vraie prise de conscience qui me trouble, peut-être me fait pleurer, mais qui est capitale pour que je puisse avancer avec Dieu. On a cet exemple dans Néhémie où la loi est lue et le peuple, au bout d'un moment, se met à pleurer. Ils comprennent leur fossé entre la distance, entre les exigences de Dieu et leur vie. Sur le principe, j'imagine qu'on ne peut être que d'accord avec ces deux versets. Et certainement qu'on pourrait chanter « pardon Seigneur ». Je ne l'ai pas mis dans les chants. Mais quelle réponse donnerions-nous si quelqu'un nous soulignait nos manquements ? Est-ce qu'on serait dans la défense agressive ou notre réponse douce se montrerait que nous avons compris le fait que ce qui est souligné est juste et que je dois progresser ? C'est ce que nous dit le verset 5. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Alors, hériter la terre, c'est une autre manière de dire qu'il parle du royaume des cieux. Hein. Vous savez que là, Jésus prend un petit peu un contre-pied. Bonne partie du peuple, les religieux, tout le monde attendait un Messie guerrier qui redonnerait la terre d'Israël. Et là, dans ce verset, il est question d'être doux pour hériter la terre. Ouais. Et ce verset interroge sur ma manière de répondre quand on souligne mon évidente faillite. Alors peut-être que, évidemment, ça révélera un peu surprise, peut-être halluciné qu'on parle de mon intimité spirituelle, mais est-ce que derrière ça provoquera de l'autodéfense véhémente ou bien un acquiescement paisible ? Verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Là ici, à nouveau, il y a une différence entre ceux qui pourraient se croire justes et ceux qui aspirent à la justice de Dieu. La justice est presque synonyme de Dieu, hein, puisque... les questions de la justice qui sera d'ailleurs repris un petit peu plus loin. La justice, est-ce que notre espérance de la justice, on la voit beaucoup chez les autres, hein? Et je pense qu'ici, en premier, cette aspiration nous parle à nous. Et cette aspiration, elle est comblée dans le royaume, le roi et la justice incarnée, la justice même. On est un petit peu comme les personnes de cette époque, hein, ces religieux. Nous avons une haute opinion de la justice, comment elle devrait être. Et comme elle devrait être aussi appliquée aux autres. Et on est beaucoup plus accommodant au niveau de la justice avec nos proches et avec nous-mêmes. Est-ce que mon sens de la justice, celle de Dieu lui-même, je l'applique à moi-même comme j'aimerais qu'elle soit appliquée aux autres ? Au verset 7, « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » Je dois avouer que c'est peut-être le verset qui m'a le plus travaillé. L'idée que le bien pratiqué est une réciprocité automatique. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que l'on observe au quotidien. Ça se saurait. Mais regardons ensemble toutes les conséquences de ce qu'il y a après, car c'est dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire que la bonté dont je fais preuve et une illustration de ce qui se passe dans le royaume des cieux, mais a un écho dans le royaume des cieux. Et un bel exemple, on l'a par exemple dans Acte 10, où il est question de Corneille. Acte 10, il est question de Corneille. Au verset 2, il est dit qu'il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Et plus loin, au verset 4, Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Le bienfait a eu un écho, a été relevé, hein, a été souligné. Et Dieu, dans sa grâce, lui a fait le plus grand don qui puisse être, celui d'être le premier gentil païen à recevoir le salut. Un écho dans le royaume. Vous voyez ? Il y a eu un écho dans le royaume des cieux. Le moment, la dernière fois, on a vu que Jésus a choisi des disciples. On s'est arrêté sur quatre disciples, mais il en a choisi d'autres. Et le moment où il a choisi Nathanaël comme disciple aurait pu être l'inspiration ou l'illustration, plutôt l'illustration du verset suivant, le verset 8. En effet, en Jean 1, 47, Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Et le verset 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cœur pur, on pourrait... quelque chose qui n'a pas de pli, hein, qui n'a pas de repli, quelque chose qui est... voilà, qui est clair, qui est... Et ce verset est aussi un peu un clin d'œil à toutes les purifications cérémonielles qui étaient dans le quotidien des Israélites de l'époque. Hein. Et c'était devenu une vraie manie du temps de Jésus, tous les aspects de purification. Et Jésus insistera de nombreuses reprises que la purification qui est la plus importante, c'est celle qui anime la vie et pas celle que l'on fait extérieurement. D'ailleurs, la compétition à savoir celui qui est le plus rigoureux d'être pur amène à chaque fois l'hypocrisie plutôt que rendre le cœur pur. En somme, l'hypocrisie n'a pas le droit de citer dans le royaume des cieux. Le cœur pur a deux composantes. Nous sommes ce que dans ce que nous affichons, ce qu'il y a à l'intérieur, hein, et ce qu'il y a à l'intérieur correspond à ce que Dieu attend. Et je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce dessin humoristique dans, je crois que c'était dans Crise de foi, un vieux livre du siècle passé, hein, où il y a le couple pastoral qui rentre à la maison. Et on voit la porte se refermer, les clés posées. Et la femme dit à son mari de pasteur, « Arrête de sourire, on est rentré. » Ça me fait sourire. J'arrêterai de sourire hein, quand je serai à la maison. Mais est-ce que ce qu'il y a au fond est la réalité de ce que l'on montre hein, le bon témoignage affiché correspond à ce qui est intérieurement vécu. Au verset 9 de Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce que celui qui est venu apporter la paix entre Dieu et les hommes indique que l'une des caractéristiques de ses disciples, de son royaume, c'est de procurer la paix. Et ses disciples, les sujets du royaume de Dieu, doivent procurer la paix, mais ici, vous avez vu, ils sont appelés fils de Dieu. Les disciples sont appelés fils de Dieu. Hein. Et c'est un engagement des disciples d'être des instruments de paix. Et ce verset de Romains 12, 18 nous dit « Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Des fois, ça ne dépend pas de nous, moi, mais voilà. A contrario, on pourrait se poser la question de ce qui anime réellement les personnes qui sont régulièrement des personnes qui sont à l'initiative de troubles. Hein. Toujours dans Romains, là un peu l'inverse, « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ. » Pas Christ notre Seigneur, mais leur propre vente. Car des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. La suite du texte de Matthieu 5 nous amène à trois versets qui sont liés et qui peuvent un peu peut-être nous surprendre. Mais rappelez-vous, heureux, ce n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances. Heureux, c'est être à l'endroit où le vrai sens de notre vie doit être, c'est-à-dire avec Jésus dans son royaume. Regardez, on peut être heureux dans les circonstances qui sont décrites ici. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. On en a parlé tout à l'heure, hein ? Car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Hein ? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous l'avez bien compris, il n'est pas question d'obtenir quelque chose au travers du martyr, de la souffrance, quelque chose comme ça, hein. Mais les maltraitances subies pour la justice qui est Dieu, la justice de Dieu, pour Jésus, et non pas pour des bêtises ou nos inconséquences, trouvent un écho dans le royaume des cieux. On pourrait être logiquement dans l'abattement, hein, quand on est victime de beaucoup de choses injustes, mais Jésus ici prend le contre-pied en portant le regard sur la cause et sur la finalité. La cause, si vous êtes la persécution, hein, si vous êtes dans la persécution, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. Et il n'y a rien de nouveau. Les prophètes, eux aussi, ont connu la même chose. Et la finalité, la récompense est certaine. C'est intéressant de voir que pour ces sujets qui parlent des difficultés, de l'injustice, des persécutions, de l'incompréhension, Jésus évoque toujours ce qu'il vivra lui-même. Même ces difficultés, il les a incarnées et il en parle en connaissance de cause. Et cela a eu un écho fort, hein, parmi les disciples, apôtres. Dans le livre des Actes, par exemple, on peut lire au verset 40 et 41, les disciples, les apôtres se font arrêter à cause de leur témoignage pour Jésus, donc la cause, hein. Et il est marqué au verset 40, « Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, donc c'était 40 coups, hein, je crois, moins un, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. » C'est intéressant parce que ces situations extrêmes nous interrogent sur la source justement de notre joie. Hein ? Est-elle hédoniste ou est-elle réellement en Dieu ? Alors, hédoniste, c'est le plaisir, hein, et l'évitement des souffrances. Où est-ce que cette joie, elle est réellement en Dieu ? Cette expression de vie du royaume des cieux doit être visible dès maintenant dans la vie des disciples. Le royaume des cieux, ce n'est pas un truc futur. Le royaume des cieux, c'est nous maintenant dans la vie, dans notre vie de disciples de Jésus. Au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert qu'à être jeté dehors, piétiné par les hommes. » D'après les infos que l'on a de l'époque de Jésus, il semble que le sel qui était insipide, qui n'était pas bon pour la consommation, était utilisé pour mettre les jours où il avait plu sur le marbre du temple pour éviter que les personnes glissent. Alors, ce n'était pas pour saler, pour éviter qu'il y ait la neige, hein, parce qu'à Jérusalem, il y en a très rarement, mais il y en a bien à voir. Mais c'était utilisé pour que les personnes ne glissent pas. ou bien c'était utilisé dans les constructions du bâtiment pour durcir les sols, que les terrasses de toit aussi. Et effectivement, après, on marchait dessus sur un sol bien dur parce qu'il avait été durci avec ce sel sans importance. Mais le sel, on connaît bien son utilité. Et peut-être tout à l'heure, nos cuisinières feront exprès de faire un plat fade pour qu'on se rappelle de l'utilité que, du sel. Et quelque chose qu'il y avait à l'époque et qu'on a beaucoup moins maintenant, c'est que comme il n'y avait pas de frigo à l'époque, le sel était capital pour la conservation. Et même des fois, le sel avait une valeur plus importante que l'or quand il commençait à manquer, parce que c'était un élément fondamental de la vie. Et c'est le sens de ce texte que le disciple doit être ce sel dans l'ambiance qui l'entoure. En revanche, une vie assimilée à ceux qui entourent, eh ben le sel perd sa saveur. Peut-être que aussi une expression de vie de disciple mal dosée donne un témoignage trop salé. Il y a les deux extrêmes, on pourrait utiliser cette image, d'un côté être assimilé et de l'autre côté être incompréhensible par une attitude exagérée. Mais le meilleur exemple, je trouve, on l'a en Jésus. Jésus était le même, salé exactement comme il faut, dans toute situation et dans plein d'endroits différents. Alors, Jésus va utiliser une image complémentaire. Et pour ça, on va le suivre. On n'est plus trop habitué aux nuits sans pollution lumineuse. Et on a beaucoup d'éclairage, la lune, les villes. Là, récemment, il y a des bâtiments qui se construisent et ils sont éclairés tout le temps. Et dans cet environnement, on a peut-être moins la perception de ces nuits profondes qu'il y avait quand il n'y avait pas tous nos avantages électriques. Et quand vous êtes dans une nuit où il n'y a rien du tout, la moindre lumière, même très 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 loin, se voit à des kilomètres et à des kilomètres. Alors, on va essayer de se faire la démonstration. Vous voyez, cette fois, ce n'est pas une cloche. On va peut-être même mettre l'affichage du texte, pour changer. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met ceux qui sont dans la maison. Vous avez vu les effets intéressants de la lumière, à la fois sur un grand espace géographique, les questions d'une ville sur une montagne, et en même temps, un endroit localisé comme la maison. La lumière doit éclairer quelles que soient les circonstances. Il n'y a rien de plus stupide d'allumer une lampe et puis après de mettre le seau, comme je l'ai fait tout à l'heure, par-dessus. Et pourtant, Nous sommes ces personnes qui mettons souvent un sceau sur notre lumière. Hein. On se freine souvent dans notre expression de vie de disciple. Et que ce soit à la maison, que ce soit en couple, en famille ou en public. Pourtant, verset 16 dit « Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » C'est intéressant parce que ici, quel est l'aspect sur lequel il est insisté, notre manière d'agir. Notre manière d'agir. Et c'est peut-être là où nous avons le plus de difficultés. Appliquer, c'est-à-dire vivre ce que nous sommes, ce que nous professons. Les religieux de l'époque disaient des choses majoritairement justes, le plus souvent. Mais leur attitude de vie montrait l'inverse. Ça enseignait alors l'hypocrisie, être quelque chose et vivre autre chose. Et c'est certainement pour ça que Jésus insiste sur cet aspect. On va remettre un peu de lumière. Hein? Vous voyez les bienfaits de la lumière? Ben, certains peuvent se réveiller maintenant. On va la laisser. Voilà, on peut relever tous les stores si on veut. Comme d'habitude, on va terminer en faisant quatre choses. Qu'est-ce que j'apprends de Dieu? Qu'est-ce que j'apprends de faire cette semaine? Et qu'est-ce que ça pousse à transmettre? Toujours quatre choses. Hein? La première chose que j'apprends de Dieu ici est très simple. Dieu désire que l'humanité soit heureuse. Je pense que c'est assez souligné, non? Dieu désire que l'humanité soit heureuse, que nos vies aient un sens qui nous comble et le montre en donnant les ingrédients de son royaume dans lequel on rentre par la repentance. Le royaume, c'est déjà maintenant, on l'a vu, dans la vie de ses disciples, d'une manière intérieure, et on vient de le voir d'une manière d'expression de vie extérieure, en faisant le bien. Ce royaume est l'endroit où ses disciples ont de vraies réponses existentielles, une vraie consolation, guérison spirituelle, où l'autodéfense laisse place à la progression spirituelle, où nos aspirations de justice sont comblées, où la bonté, même la plus cachée, et enregistré comme une valeur, comme un bien précieux. Où l'hypocrisie a laissé la place à l'authenticité inspirée de Dieu. Où les disciples de Jésus sont appelés fils de Dieu, artisans de paix. Ce royaume n'est pas un rêve, il s'est vu au travers de Jésus, il se voit au travers de ses disciples. Qu'est-ce que j'apprends sur l'homme, nous nous trompons certainement souvent d'objectif. Hein? Et on tombe souvent dans le piège, à la recherche de l'hédonisme, du plaisir à tout prix, de posséder, pour que cela nous apporte de la joie. On est comme ces personnes qui doivent remplir un tonneau qui est vide et qui ne sera jamais comblé. Que ce soit pour servir une cause, que ce soit à la recherche du succès, on l'a vu. Pourtant, ces voies sans issue sont d'excellents indicateurs de quelque chose de profond en nous. On a ce besoin, hein, et tous ces moments de joie dans nos vies sont un petit peu des apéritifs, mais il n'arrive jamais le plat de résistance. Et ce plat de résistance, comment ça se fait que j'y aspire, hein? Comment ça se fait que j'ai envie qu'il soit comblé? Ben, Jésus y répond par « heureux ». Moi, je sais comment te rendre heureux. Hein? Ceux qui s'attachent à lui et avancent avec lui. Et pour ceux qui s'attachent à lui, hein, en tant que disciples de Jésus, plusieurs aspects ont été soulignés. Être réellement à l'écoute de Dieu, peut-être en ne faisant pas rentrer Dieu, hein, dans ce que je crois, mais rechercher vraiment qui est Dieu. Et des fois, on a une idée de Dieu, on aimerait le faire rentrer à tout prix dans ce que je découvre de lui. Peut-être en regardant aussi mon péché pour ce qu'il est, sans justification, sans excuse ou banalisation. Ce qui veut dire être dans l'acceptation aussi constructive, si on souligne certains aspects qui doivent être mis en lumière et réglés par Dieu. Mon aspiration de la justice, je crois qu'il faut que je me l'applique en premier, plutôt que de penser toujours aux autres. Encourager aussi à faire le bien inlassablement, quelles que soient les circonstances. On a vu, Dieu y est sensible, malgré les circonstances. Rechercher une vraie authenticité biblique, simple, pure. On a été appelés fils de Dieu, les disciples, mais est-ce qu'on pourrait nous appeler artisans de paix? Peut-être que mon regard, on va penser que j'ai faim. Peut-être que mon regard dépasse les injustices dues à ma foi pour voir justement plus loin, pour voir qui est la source de cette injustice, qui est celui que je sers et quel écho ça aura plus loin. Tout ça n'a vraiment d'intérêt que si on le voit et que je le vis au quotidien. Alors je vais vous inviter à faire quelque chose. J'ai beaucoup parlé. Je vous invite, on pourrait peut-être réafficher le texte de Matthieu chapitre 5. Peut-être que dans le troisième point, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Relire le texte. Et peut-être qu'il y a un point sur lequel, cette semaine, il faudrait que je puisse réfléchir et agir peut-être avec Dieu. Je vais laisser un temps de lecture justement du texte de ce matin et de se dire peut-être cette semaine je vais travailler sur ce point. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce qui nous a été souligné ce matin. Seigneur, merci parce que tu veux que l'on soit réellement heureux, profondément. Et Seigneur, que tu m'aides, que tu nous aides à vivre à peut-être un point particulier sur lequel on est. Ouais, on a de la progression à faire, on a à se remettre face à toi. Et Seigneur, que tu nous donnes cette semaine de pouvoir te le présenter, te l'apporter et te voir agir. Amen. Le dernier point, qu'est-ce qu'on peut transmettre? Peut-être que le royaume des cieux est le havre où les aspirations les plus profondes sont vécues et comblées. C'est peut-être ça qu'on pourrait transmettre. C'est que là où est Jésus, là où il règne, là où il est le roi, là où on a donné sa vie, c'est là où les aspirations les plus profondes, hein, sont vécues et comblées.